Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Point and Think. Aujourd'hui, nous recevons Thomas qui a développé le jeu Shippy Short Adventure que vous pouvez retrouver gratuitement sur Steam et qui nous a fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et je suis aussi accompagnée de Horror404 qui va faire l'interview avec moi. Salut.
Salut tout le monde.
Bien, et bien écoutez, nous sommes partis. Merci Thomas d'être avec nous. Dans un premier temps, ma première question, ce serait, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices en quelques mots ?
Ouais, bah alors, mon pseudo, moi, c'est Thomas Lynn. Mon vrai prénom, non, ça n'a rien à voir. Et Thomas Lynn, ouais, c'est un pseudo et j'ai eu la mauvaise idée d'avoir un pseudo qui ressemble à un vrai nom. Et du coup, moi, à la base, je fais du pixel art, surtout. Je suis freelance. Je travaille à mon compte, quoi, en tant que pixel artist, graphiste, etc. Et voilà, j'ai fait des études de jeux vidéo, j'ai fait du freelance, etc. Et pendant toute cette période-là, un peu de ma vie, donc il y a une dizaine d'années, j'ai touché à plein d'autres trucs. J'ai fait beaucoup de game jam, donc des petits événements où on fait des jeux vidéo sur des courtes périodes de temps, etc. Et en fait, du coup, à force de toucher à tout, j'ai fait aussi beaucoup de sound design aussi pour des courts métrages d'animation, des trucs comme ça, etc. Je me suis intéressé un peu aussi à la prog et tout, ce qui fait qu'en fait, il y a un petit temps maintenant, j'avais un bagage un peu de touche-à-tout, quoi. Et depuis, voilà, quelques années maintenant, je me considère plus comme un game dev, dans le sens où je fais des jeux, en essayant de faire le maximum de trucs moi-même, même si justement, là, avec ce qui m'est arrivé récemment de faire un jeu tout seul sur 3 ans, donc ce qui était une grosse période, quoi, ça m'a un peu fait changer d'avis sur ce truc de, voilà, j'aime bien faire des jeux tout seul, il y a plein de trucs qui sont très cool liés à ça. Mais voilà, maintenant j'ai envie de bosser avec des gens, etc. Donc je me considère toujours comme un game dev parce que ce qui m'intéresse, c'est avant tout de faire des jeux, on va dire, plus qu'être graphiste en particulier ou quoi. Mais oui, voilà, maintenant j'ai envie quand même de bosser avec des gens et tout, et de rencontrer d'autres gens justement qui sont un peu dans cette dynamique-là de game dev, indie game dev aussi, etc. Et de faire des jeux, quoi.
Alors du coup, on t'a connu grâce à ton jeu, Shippy, qui est disponible sur Steam. Mais on a vu aussi que tu avais une chaîne YouTube pour faire de la musique.
Alors, c'est pas ma chaîne YouTube, hein. J'aimerais bien, mais ça c'est pas le cas. Mais du coup, voilà, ce jeu, en fait, je l'ai fait avec Mr. Suicide Ship, qui du coup est une chaîne YouTube qui n'est pas la mienne, qui est un curator, il y a plein de noms en anglais un peu cool pour dire ça, donc Label 2.0, s'ils appellent ça comme ça, et en gros des gens qui partagent de la musique. Aujourd'hui sur YouTube, il y en a plein, il y a Lofi Girl typiquement aussi qui est comme ça, et en fait, ces gens-là, du coup, enfin surtout Mr. Suicide Ship, existent depuis très longtemps, je crois même que c'est les premiers à avoir fait ça, au début de YouTube. Et en fait, avec le temps, ils ont fait de l'argent aussi avec les vues, des trucs comme ça. Ils se sont mis sur Spotify aussi à l'époque où il y avait toutes les playlists de Spotify, etc. Et en fait, aujourd'hui, cet argent, ils avaient un peu la question de quoi en faire. Et en gros, leur logique aujourd'hui, c'est d'essayer de la redistribuer aux créatifs. Leur logique un peu éthique, c'est on s'est fait de l'argent finalement grâce aux créatifs. En partageant de la musique, ceux qui connaissent Suicide Ship, en fait, à chaque fois qu'ils partagent une musique, ils mettent toujours une illustration aussi qu'ils trouvent sur DeviantArt, tout ce genre de site. Et donc, en fait, vu que c'est les illustrateurs, les musiciens, etc., qui les ont fait connaître, ils se sont dit, en fait, on va redistribuer aussi cet argent maintenant pour financer les artistes et les aider à en vivre, etc. Et du coup, le jeu vidéo, ça les intéressait. Et donc, en fait, il y a 3 ans, moi, ils m'ont contacté justement parce qu'ils voyaient que je faisais du pixel art, mais du jeu vidéo aussi en général. Et en fait, à ce moment-là, ils voulaient monter une équipe pour créer un jeu vidéo. Et en fait, à force de discuter et tout, moi, je leur avais dit qu'en gros, faire un jeu tout seul, c'était un truc qui m'intéressait depuis longtemps. Et on s'est mis d'accord pour faire un jeu, en fait, quoi. C'était pas du tout censé durer 3 ans à la base. Mais comme souvent dans le jeu vidéo, on a du mal à prévoir les choses en termes de scope, quoi, correctement.
Comment ça s'est passé ? Enfin, ils t'ont laissé la liberté de faire ce que tu voulais en termes de jeu, ou ils t'avaient donné une contrainte ?
Non, c'est ça qui a été super cool, au point où même moi, j'étais pas méfiant, mais je me posais beaucoup de questions sur comment ça allait concrètement se passer, parce que quand je leur ai dit que j'aurais aimé faire un jeu tout seul, et qu'ils m'ont dit « t'as qu'à faire un jeu tout seul et on te paye pour le faire », Forcément, moi, je me disais qu'il y avait sûrement des contreparties, des trucs où ils comptaient sur moi aussi pour faire peut-être un truc promotionnel pour eux, etc. Et c'est ce que les gens, en fait, même voient souvent dans le résultat, comme si j'avais fait un jeu pour eux, un peu promotionné comme une commande. En fait, la réalité derrière ça, c'est plus que moi, à la base, ils voulaient vraiment me rémunérer presque sous forme de mécénat. C'est-à-dire vraiment, je fais ce que je veux. Et je suis payé pour, en fait, avec un salaire par mois pour qu'au quotidien, je puisse me payer à manger, etc. Et en fait, c'est moi qui ai insisté parce que, à la base, même si moi, en tant que créatif, j'ai des idées, des univers et tout, je suis assez ouvert. Toujours ce que je dis souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des bons jeux, quoi. Que ce soit mon idée ou celle d'un autre, etc. C'est mon univers ou celui d'un autre. Ça me dérange pas trop. Et du coup, moi, je leur ai dit que c'était cool quand même de profiter de cette opportunité pour faire un jeu Suicide Ship, parce que j'ai grandi aussi avec ça. Ceux qui ados écoutaient la chaîne YouTube tout le temps, ils voient un peu. Il y avait un mood. Il y avait pas, c'est pas juste de la musique. Il y avait quand même un univers général autour de ce qu'ils partageaient, ce côté un peu ado, émo, où on est dans son coin, dans sa chambre, on écoute la musique qui nous projette un peu dans des univers un peu des autres mondes et tout, quoi. Et je me disais, ce serait quand même cool de faire un truc dans ce sens-là. Et donc, c'est plus moi à ce moment-là qui ai poussé pour qu'on fasse un jeu entre guillemets Suicide Ship et qu'on assume vraiment le côté licence, quoi. Mais là où ça se ressent quand même qu'il y avait de la liberté, c'est que le jeu en lui-même est assez déconnecté en fait on retrouve les intentions et l'univers, le côté un peu nostalgie, bleuté, ado, les musiques de l'époque aussi, hein, forcément, mais le jeu, si ça se sait pas que c'est fait par Suicide Ship, les gens feraient pas le lien forcément, quoi. Et donc ça, c'est un truc qu'on a voulu aussi assumer, quoi, ce côté de, on fait un jeu dans l'ambiance Suicide Ship, mais on va pas forcément le crier sur les toits que c'est un jeu Suicide Ship, etc. Ça va pas forcément se ressentir dans le jeu, quoi. Donc voilà. Mais à la base, ouais, c'était totale liberté, et dans le sens où même quand on a discuté et tout, les refs qui m'avaient envoyé de jeux qu'ils aimaient bien, c'était des jeux itch.io avec 15 minutes de gameplay, des petits point and click un peu creepy, des trucs comme ça, mais des trucs qui avaient rien à voir, quoi. Et eux, ils me disaient que ça, ils aimaient bien ce genre de démarche, en fait, sans parler du jeu en lui-même. Et qu'en fait, tant que c'était un petit jeu comme ça, ils étaient contents, quoi.
Ok, donc ouais, dès le départ, il y avait cette idée de faire un jeu court, quelque part, parce que JP se finit en une heure, je crois, quelque chose comme ça.
Mais alors, à la base, ça devait être 15 minutes, même, c'est un peu tout le truc. C'est là où ça a pris 3 ans, alors que, je crois, au tout début, on était parti, on s'était dit un mois et demi de prod. Et en fait, après, on s'est dit que ça allait pas prendre 6 mois. Et puis, en fait, même là, à partir de là, ça a pris 3 ans, quoi. Donc, c'était vraiment pas prévu. Ce qui est cool, c'est que il y avait quand même cette intention de base, en fait, de faire un petit jeu. Pour eux, c'était vraiment l'idée aussi d'une première fois, quoi, d'essayer de travailler avec des développeurs, voir concrètement combien ça coûte, combien de temps ça prend, est-ce que ça se passe bien et tout. Et en fait, ce qui fait que ça a été rallongé, c'est surtout que eux comme moi, et ça, c'est un truc où j'ai été très content, c'est eux comme moi, en fait, il y a des moments où on avait des idées, et en fait, on se disait, ça vaut le coup de les faire. Et en fait, plus le temps passait, plus on a assumé le truc de tant pis, ça prendra le temps qu'il faut. Et si ça prend plus que prévu, c'est pas grave, parce qu'on veut sortir un petit truc dont on est fier. Et au final, ça a pas duré 15 minutes, le jeu, ça dure une heure. Et surtout, ceux qui ont joué le savent, c'est un jeu où même si c'est que une heure, entre guillemets, c'est très condensé, mais c'est assez riche dans ce que ça fait vivre. Et ça, c'est un truc aussi qu'on a choisi d'assumer avec le temps. On s'est dit, quitte à passer un mois sur 10 secondes du jeu, c'est pas grave, parce qu'on veut sortir un truc où on est fier, on va dire, du résultat, quoi. Et voilà. Mais il y avait, ouais, de base, cette intention quand même de faire un truc petit. C'est juste qu'avec le temps, on a commencé à vouloir assumer ce côté de ça a beau être court, c'est très condensé et entre guillemets, c'est quali, quoi.
Toi que moi, je l'ai adoré quand on jouait à Shippie, c'est vraiment cette impression que vous avez été jusqu'au boutisme de chaque lumière, chaque pixel, chaque petit son. Tout est satisfaisant de partout. Mais ça a dû, vous avez dû passer un temps considérable sur chaque détail, en fait. C'est outre la structure du jeu lui-même, j'imagine que ouais, chaque élément, que ce soit le sound design ou les lumières ou quoi, c'est vraiment ça qui vous a pris le plus de temps. Enfin, comment ça s'est réparti quelque part le temps de production?
Ouais, bah c'est alors dans l'idée, moi j'ai des chiffres que j'ai un peu notés pour moi-même aussi pour pas oublier, quoi, parce que c'est un peu des trucs que je veux pas forcément revivre. Mais par exemple, les environnements du jeu. Donc juste l'aspect habiller, le level design et tout. Le level design était déjà fait sous forme de blocs et tout, mais juste l'habiller graphiquement, ça m'a pris 8 mois en gros sur les 3 ans. Donc c'était une grosse période du projet, quoi. Et alors pareil, la phase de polish, vraiment de venir tout retaper au propre, etc. Ça a pris la dernière année entière, quoi. C'est-à-dire que on a vraiment en fait en janvier l'année dernière, donc il y a un an maintenant, le jeu. On y jouait, on se disait qu'il pouvait sortir dans l'état. Mais on était d'accord en fait sur ce truc de il manque ce petit truc qui fait que c'est vraiment cool et tout, et des détails, par exemple dans le premier niveau, la course-poursuite à la fin qui dure vraiment que 10 secondes hein, mais à la base c'était presque plus une cinématique gameplay, dans le sens où il y avait juste la créature qui arrivait, elle nous poursuit et nous c'est juste une ligne droite, on tombe et c'est la suite du niveau quoi, et enfin on passe au niveau suivant, et tout l'aspect mettre un petit level design où il faut se dépêcher, la méga animation et tout, l'animation déjà elle m'a pris un mois en elle-même, et après l'intégration, rajouter le son, les effets de lumière, tout ça c'était 2 mois supplémentaires. Et donc en fait voilà, c'est vraiment sur 10 secondes du jeu, on se disait là ça vaudrait le coup de prendre un temps pour qu'il y ait un petit wow effect et que ça marque un peu les gens. Et donc en fait on avait passé 3 mois en plus dessus au final, etc. quoi. Et ça a été un peu tout le temps ça, quoi. C'est que chaque partie du jeu, il y a plein de moments où on se disait ce serait cool. Et encore je dis ça, il y en a vraiment beaucoup qu'on a mis de côté. Mais ouais, on a quand même essayé de s'axer sur chaque élément du jeu pour être sûr qu'il soit cool. Et ça, là où c'est ovni mais cool, moi, enfin là où moi je suis vraiment aussi content d'avoir eu la chance de vivre ça, c'est que c'est aussi eux, avec leur éthique aussi et leurs moyens forcément, mais n'empêche, ils avaient vraiment cette envie de se dire, on est prêt à payer aussi pour avoir ce truc-là, quoi. Vraiment, le fait que on est prêt à payer 1 an de plus qu'un développeur, parce que avec 1 an de plus, on va atteindre ce truc où c'est vraiment qualité partout, quoi, et que ça se ressent en tant que joueur et tout. Et ça, c'est. Donc moi, évidemment, je suis content de l'avoir fait et tout, mais même je suis très content que eux, enfin, j'ai pu croiser des gens comme ça qui financent, quoi, et qui étaient dans cette démarche de vraiment vouloir assumer de on le fait, quoi, vraiment.
Ça fait du bien de pouvoir encore ça,
Voilà.
j'imagine, dans un monde où les jeux sortent non finis.
C'est ça. C'est ça. Et d'autant plus que eux, c'est pas des éditeurs. C'est pas des gens qui sont dans le jeu vidéo de base. Donc ils auraient pu être d'autant plus méfiants ou se dire que bon, ils ont essayé de faire du jeu vidéo, ça coûte cher, on arrête là, on le sort comme ça, c'est bien et c'est tout. Et en fait, qu'ils aient voulu prendre un peu justement, je sais pas, c'est du courage ou en tout cas se permettre, mais vraiment ce truc de se dire non, on va le faire jusqu'au bout, on assume. Comme tu dis, dans le paysage, tu vois, du jeu vidéo actuel, ça, c'est vraiment un contraste, c'est cool, quoi. Et parce que souvent, enfin, des gens à qui j'en parle me disent que j'ai eu de la chance. Alors j'ai eu de la chance de les croiser, oui, mais il faut pas oublier que c'est pas que de la chance, c'est aussi des gens factuellement qui ont choisi de faire ça. Et ça, enfin, j'en parle beaucoup quand je discute avec des développeurs, parce qu'il y a aussi une réalité où on oublie souvent que les éditeurs et les gens qui financent le jeu vidéo, ils ont aussi leurs responsabilités. Et j'ai pas envie que des gens qui financent du jeu vidéo voient cette expérience que j'ai eue avec Shippie comme un coup de chance, alors qu'en fait il y a aussi des décisions humaines. Et c'est même la conclusion nous qu'on a eue avec. Donc quand je dis on, c'est moi, toujours moi et Suicide Chip, c'est surtout donc quelqu'un qui s'appelle Rob Thomas, qui était en gros mon producteur sur le projet, donc la personne qui me gérait, avec qui du coup on discutait quasi tous les jours de comment évoluer le projet et tout. Et ce qu'on s'est dit lui et moi à la fin du projet, c'est qu'en fait on a aussi ce résultat-là. Parce que tout le long du projet, on a eu aussi, on va dire, le courage de prendre les bonnes décisions, de se dire là, on se donne 1 mois de plus, etc., etc. Et ça, c'est pas que de la chance, aussi du mérite dans le sens de leur part, et ils ont vraiment fait les bons choix pour qu'on ait ce résultat-là,
C'est
quoi.
vrai que quand j'entends souvent des développeurs expliquer, on parle souvent de concessions dans le domaine du jeu vidéo où on doit exprimer des idées cool parce que ça ne matche pas avec telle chose ou par des moyens de temps ou quoi. Vous, votre production, ça a vraiment été à l'inverse, j'ai l'impression. C'est plutôt le côté où justement on prend le temps de faire chaque chose contrairement à ce qu'on voit d'habitude, quoi. Et
Non, c'est
ça
ça.
se voit tellement dans la qualité finale quelque
Ouais.
part.
Et ce qui ne veut pas dire pour autant, moi c'est ça où j'insiste, c'est que vraiment, il y a énormément de choses qu'on a choisi de sacrifier. Par exemple, pour ceux qu'on joue au jeu et tout, c'est pas du spoil, hein, c'est des trucs. C'est vraiment des exemples assez plus techniques de prod. Il y a des trucs cachés dans le jeu qu'il faut trouver. Ces trucs cachés, quand on les trouve, c'est on les trouve, on le récupère, c'est fini, on passe à la suite. À la base, si on fait gaffe, en fait, tous les endroits dans le jeu où ils sont, ces trucs-là, c'est des couloirs, parce qu'en fait, normalement, ça devait mener à une autre pièce, où là, en fait, il y avait un petit level design pour récupérer l'objet à récupérer. Donc c'est du bonus dans le jeu et tout, mais on voulait vraiment, donc c'est clairement inspiré de Céleste avec les fraises, où en fait c'est du bonus et il y a des petites rooms, level design et tout. Et en fait, notre idée qu'on avait de base, c'est que vu que le jeu se veut plus contemplatif, slash aventure. Il y avait une partie de moi où j'étais un peu frustré vu que bah, le jeu s'inspire notamment de Céleste hein, pour plein de choses, de pas avoir ces moments un peu plus level design entre guillemets où on est vraiment challengé sur les contrôles et tout. Et du coup en fait on voulait pas, on avait pris la décision de pas en mettre dans le jeu normal parce qu'on se disait oui mais ça va bloquer des joueurs en fait. On voulait que le jeu soit hyper accessible, que ce soit vraiment un jeu de promenade entre guillemets pour des joueurs et tout. Et ça c'est un truc dont on est assez fier, c'est qu'au final les gens qui jouent, c'est pas beaucoup de gamers et beaucoup de gens qui jouent pas forcément aux jeux vidéo et encore moins les jeux hardcore, etc. Et en fait on a vraiment beaucoup de retours positifs qui viennent de gens qui sont pas du jeu vidéo. Et ça fait plaisir. Et en fait, on aurait mis ces passages, ça les aurait bloqués. Ils auraient arrêté de jouer parce que ça retomberait dans un truc très jeu vidéo de j'arrive pas, c'est trop dur, je pose la manette ou je fais jouer quelqu'un d'autre. Mais voilà. Et nous, on voulait pas ça. Donc, on voulait les garder en bonus et d'où l'idée d'avoir des salles bonus à la base avec des trucs à collecter, quoi, pour faire le 100% du jeu. Mais du coup, c'est pas obligatoire. Et en fait, ça, on n'a pas eu le temps de les faire. Donc, on les a juste mis au fond du couloir, les objets, en mode voilà, tu les récupères et voilà. Et ça, c'est un gros truc qu'on a sacrifié où pendant très longtemps, on voulait pas. Donc, on a dû faire des concessions quand même. Mais par contre, on a quand même, on va dire, on a fait l'effort, et que ce soit moi ou en tant que dev, mais aussi eux de leur part en tant que financeur, de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut qu'on sacrifie parce que c'est pas essentiel, mais qu'est-ce qu'on va quand même prendre le temps de faire parce que quand même, ça vaudrait le coup que ce soit là, quoi. Donc c'est, je veux dire, je dis ça dans le sens où voilà, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais de la chance de trouver quelqu'un qui me donne argent illimité pour qu'on fasse ce qu'on veut, etc. Ça a pas été ça. On a dû quand même avoir les pieds sur terre, de se rendre compte que sans parler d'argent, en fait, une prod, si on veut tout mettre, tout ce qu'on a en tête, ça s'arrête potentiellement jamais, parce qu'en fait, on aura toujours des nouvelles idées pour rendre le jeu plus cool. Et vraiment, on a dû sacrifier aussi quand même beaucoup de choses qui nous tenaient à cœur. Et bon, bah qu'on garde pour une autre fois ou pour autre chose, quoi. Mais on a dû faire des sacrifices quand même, hein, évidemment, quoi.
Moi, ça me pose la question, tu parles de financement, etc. Ça me pose la question du choix d'avoir mis le jeu gratuit sur Steam. Comment ça s'est décidé, réfléchi, enfin, comment c'est venu, en fait ?
Ça, il y a deux choses. Donc, parce que justement, je leur en ai parlé et tout par rapport à si on me pose la question. Parce que c'est surtout leur choix plus que le mien, à la base. En gros, principal point dont on avait discuté au tout début, c'est que eux ils trouvaient ça cool et moi aussi d'avoir ce côté voilà, Suicide Chip, c'est une institution qui partage de la musique, des illus parce que maintenant ils ont aussi des comptes Instagram où ils partagent ils font l'inverse sur Instagram, je trouve ça malin. Enfin, malin dans le sens c'est rigolo parce qu'ils ont un rapport, ils ont une manière de faire, je trouve, hein, c'est pas, je les cite pas, mais moi je trouve très innocente ou pure ou enfantine, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais très ils font de l'argent factuellement, mais ils sont très, c'est adulte, quoi, je veux dire, mais ils sont quand même très dans une démarche très honnête, on va dire, d'enfant, quoi. Et typiquement, ils se sont dit, sur YouTube, on partage de la musique en mettant des illus en fond. Et ben là, sur Instagram, on va partager des illus en mettant de la musique en fond. Donc c'est rigolo, entre guillemets, quoi, c'est des trucs. Et donc, ils sont beaucoup là-dedans. Et là, en gros, la première logique un peu qu'on avait avec eux dans les discussions et tout, c'était ce truc de, bah, en fait, ils ont toujours partagé du contenu gratuitement. Et du coup, ils aiment bien ce côté de, regardez, on partage des illus, on partage des musiques, etc. Maintenant, on va aussi partager des jeux de gens qu'on finance, etc. Et donc, d'où le truc de même, à la base, moi, ils voulaient plus avoir un côté mécénat où je pouvais faire ce que je voulais. Et c'est eux que, et c'est moi après qui ai insisté pour ça. Mais voilà, la logique de base, c'était, on veut financer des créatifs, donc par exemple, des développeurs qui font des jeux. Et donc, logiquement, avec cette logique de, je sais plus comment il me l'avait dit exactement, mais la phrase de l'argent, ils étaient en mode, l'argent, ça reste entre nous, on veut pas commencer à mêler les gens à ça. Maintenant, l'autre truc qui arrivait plus avec le temps, justement par rapport à comment a évolué le projet, parce que c'était plus un projet d'un mois et demi, c'est devenu un projet de 3 ans, c'est qu'on s'est dit que Shippy, vraiment le petit mouton, etc., que bah, nous, vu qu'on était assez fiers du truc, et eux notamment, bah, de plus considérer ça comme une licence, plus du tout du mécénat et tout, mais plus vraiment de, on pose un truc de ce que tu fais du jeu vidéo. Et donc en fait, l'idée maintenant, c'était aussi de dire, de faire une proposition gratuite, voir un peu comment les gens le vivent, et de voir ce que l'engouement qui se crée ou pas, pour potentiellement bah faire plus la prochaine fois, mais du coup avec la notion de pour la prochaine fois sortir un jeu du coup qui serait potentiellement payant, quoi. L'idée c'est que par contre eux comme moi on veut vraiment faire attention à pas tomber dans le cliché, on va dire, de faire un truc gratuit pour appâter et derrière faire de l'argent, enfin c'est pas du tout la logique, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs là dans les discussions qu'on a pour la suite où rien n'est décidé du tout, etc., il y a plein de trucs. Moi, j'ai aussi ma vie de mon côté où j'ai des trucs à faire. Mais il y a quand même ce truc où on s'est dit que on aimerait bien faire un jeu payant, un de ces quatre, qui est beaucoup plus riche, avec potentiellement une dizaine d'heures de jeu, des choses comme ça, etc. Et du coup, là, il serait payant. Mais on n'est pas contre l'idée de continuer à faire des jeux gratuits de 1 heure et tout. Et potentiellement, l'idée principale qu'on avait pour la suite, ce serait un jeu qui serait encore de 1 heure et gratuit, quoi. Donc c'est surtout une idée de proposer quelque chose qui marche, en fait, quoi. Dans le sens où moi du coup j'ai été rémunéré par moi, Donc en fait, je gagnais correctement ma vie, je peux en vivre, etc. Eux, de leur côté, de toute façon, ça leur fait entre guillemets de la pub, donc ils continuent à en vivre et tout, et c'est une affaire qui tourne bien de leur côté. Et les joueurs ont un jeu gratuit. Il y a tout un truc de c'est un écosystème qui marche bien. Et du coup, leur logique à eux, c'est pourquoi s'en priver, entre guillemets, quoi. C'est un peu la logique de base. C'est ça, quoi. Donc, il y a un truc de... Il y a aussi un truc de... Alors là, c'est plus moi qui vais parler en mon nom, mais parce que j'ai toujours été comme ça, mais j'ai l'impression qu'eux, c'est... On est beaucoup dans le même délire, moi et Chip, sur ça, c'est que on s'en fout de savoir comment les gens font et comment ça se fait, et il faut faire comme ça et tout. Tout ça, on... Et on se base beaucoup plus sur ce qui nous semble logique, avec le côté de, du coup, des fois, on prend le risque de se foirer, parce que si personne fait comme ça, c'est peut-être pour une raison. Mais on mise aussi sur le fait que peut-être que personne, enfin, c'est beaucoup moi qui parle là en mon nom, mais peut-être que personne ne fait ça parce qu'il y a une habitude un peu de chez tout le monde, et qu'en fait, ça vaudrait le coup d'essayer de faire autrement, parce que ça se trouve, tout le monde serait content, quoi. Et pour le coup, avec Shippy, ça, c'est un truc que j'ai déjà un peu dit, mais nous on savait pas du tout, même si on était content du résultat, on savait pas du tout à quel point ça allait marcher ou pas. Il y a plein de réalités aussi dont on nous parlait de un jeu gratuit ça se vend pas, un jeu de une heure ça se vend pas, un jeu où il y a pas de, c'est con hein, mais on nous disait un jeu où il y a pas de combat, de trucs pas, j'allais dire de violence, mais tout ce truc de on joue pas un bonhomme qui a une épée, des trucs comme ça, ça se vend moins, un jeu facile ça se vend pas, c'est beaucoup de choses qu'on nous a pointé du doigt pour nous dire c'est pas sûr que ça marche. Et en fait, au final, bah ça, en tout cas, ça a marché mieux que ce qu'on imaginait. Et donc, et surtout les retours étaient dans la vibe de ce que nous on avait, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils ont bien aimé un peu les différents aspects du jeu, le fait qu'il soit court, par exemple. On a beaucoup de gens qui nous ont dit que c'était cool justement parce que ça faisait une soirée entre potes comme une soirée Netflix où on allait jouer un petit jeu qui est quali, hyper condensé. Et au final, c'est plein de trucs comme ça qu'on marchait alors que les gens font pas ça de base, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Et j'ai l'impression qu'eux-mêmes, de toute façon, donc je parle en leur nom, mais je fais pas trop non plus, mais je pense que eux aussi sont dans cette logique de faire beaucoup de choses au feeling plutôt que d'être dans les normes, on va dire, de comment les choses, comment tout le monde fait, quoi.
Oui, puis mine de rien, il y a de plus en plus de cozy games et autres qui ont de plus en plus de succès avec cette volonté d'avoir des jeux courts qui permettent de faire une soirée et qui permettent justement à des gens qui n'ont plus la possibilité de passer 60 heures devant une console de pouvoir continuer à jouer, quoi.
Mais ça nous a, pour la parenthèse, ça nous a rassurés parce que il y a 3 ans quand on a commencé, ça n'existait pas encore. Des cozy games ou justement, enfin il y en a toujours eu, mais c'était beaucoup plus de indé ou underground, etc. et où il y avait des exceptions évidemment, et en fait c'est vrai que depuis un an ou deux on commence à voir apparaître, moi c'est l'exemple qui m'a marqué, que j'ai beaucoup aimé, c'était Jusant de les gars de Life is Strange,
Dontnod,
et où ça j'ai pareil, je l'ai fait avec un pote en une soirée et c'était super cool. Et il y a pas mal de petits trucs comme ça qui ont commencé. Il y a même eu un jeu dont pas grand monde parle, Aperture Desk Job, qui était un jeu de Valve en fait, qui est sorti un peu dans l'ombre et qui est pareil, qui se fait alors même, je crois, il fait presque même moins d'une heure, hein, et qui est vraiment. Enfin, on a vu sortir ça et tout, on s'est dit mais c'est ça, quoi. Enfin, et donc nous, ça, durant ces 3 ans, on partait un peu comme des ovnis, en ayant un peu peur de des engagements et tout, parce que bon, eux, il y avait le côté financement, mais et moi, il y avait le côté aussi de m'impliquer, quoi, dans un truc où en fait on s'est dit on va rajouter des boss, etc. Ça faisait un peu peur aussi sur le côté commitment, quoi. Et en fait entre temps on a vu des jeux comme ça sortir qui nous ont vachement rassurés sur le fait que ça se fait, en fait, quoi. Et en fait du coup quand Shippy est sorti, c'était moins un ovni que ce qu'on imaginait, quoi. Et ça, c'était cool, ça m'a fait plaisir aussi.
Et donc tu disais que vous êtes inspiré de Céleste pour le jeu, c'est vos inspirations qu'est-ce que vous avez pris dans Céleste? Est-ce que vous avez pris d'autres choses, d'autres jeux aussi qui vous ont inspiré?
Ça peut te le sortir, je le connais par cœur, sans la force. Et en gros, alors ouais, ça je l'ai mis à plat. Bon, c'est plus des trucs perso quand je fais des jeux, mais le côté de moi, pour moi, il me faut des rêves précises, bien notés et tout. Donc même dans ma tête, quand je fais des trucs, en fait, je les ai. C'est pour ça que je dis je les connais par cœur. Et parce qu'en plus, en 3 ans, t'as le temps de les retenir. Et on avait vraiment, en fait, on avait Céleste. C'était pour l'aspect arcade du platformer. Et parce qu'on voulait, dès le début, on s'est dit on veut faire un platformer contemplatif, clairement. Et la ref un peu, enfin les deux refs un peu connus, c'était Ori et Inside slash Limbo, quoi. Et Et en fait, c'était deux jeux qui avaient des contrôleurs assez fournis, chacun à leur manière, quoi, mais assez riches et tout. Et en fait, Céleste, bon, en plus, j'ai beaucoup joué à Céleste, donc j'aime bien. Mais j'aimais bien ce côté de, par contre, on assume ses arcades, le bonhomme se déplace, on appuie, il avance, quoi, des trucs très basiques comme ça et tout. Donc ça, c'était une idée d'assumer ça. Donc clairement, le côté Céleste venait pour le côté arcade et tout. Ce qui s'est perdu un peu avec le temps, c'est que bah, l'aspect level design, on va dire et tout, on l'a beaucoup mis de côté pour rester sur un truc contemplatif. On avait du coup Céleste pour ça. Inside, clairement. Remarque, en fait, Inside, à l'époque, c'était une rêve pour l'aspect graphique, le côté, enfin, contemplatif de où on arrive. Il y a des gros paysages avec au loin des trucs, des effets de lumière, du brouillard et tout. Au final, ça, on a eu une meilleure rêve entre temps, mais c'est que j'y avais pas encore joué, je connaissais de loin. C'était Little Nightmare. Qui a clairement, en fait, quand on joue, on voit le lien, quoi. Avec les couleurs bleues hyper omniprésentes et tout. Et Little Nightmare pour l'aspect graphique, quoi, contemplatif, c'était une ref. Et la troisième, c'était Ori pour les effets de lumière et le côté, moi je le dis comme ça, le côté un peu pop. C'est-à-dire que on va avoir des couleurs un peu tout le temps, pas arc-en-ciel, mais presque, quoi, dans le sens où on va pas hésiter à avoir une image qui est très, je sais pas si c'est le bon mot, mais un peu ado. Dans le sens où moi mon background graphique, il y a des trucs très pointus que j'aime beaucoup, etc., avec des couleurs très précises et des trucs assez, on va dire assez matures, l'art contemporain, des trucs comme ça. Là, on voulait vraiment pas du tout aller là-dedans et à fond aller dans un truc très Suicide Ship avec des néons, des gros effets de lumière hyper colorés. Et Ori fait très bien ça. Donc c'était aussi une ref sur cet aspect-là, quoi. Pour le côté, on dirait un Disney, un Pixar entre guillemets, quoi. C'est très, ça fait plaisir aux yeux, quoi.
Il y a un côté féerique un peu.
Ouais, exactement. C'est ça, quoi. Il y a un truc dont on va toujours, en fait, dans Shippy, si on fait attention, en fait, on remarque que le décor, il y a toujours une première version qui est posée, qui pour le coup est assez réaliste, ou en tout cas très terre à terre. Et en fait, à chaque fois, si on regarde par environnement, j'allais toujours derrière, en deuxième étape, toujours mettre un petit élément qui va rajouter une lumière d'une certaine couleur pour contrebalancer, enfin, pour créer un truc, pour compléter un peu l'image d'un côté, avec un côté très, quand je dis pop, c'est dans le sens très grand public Marvel, c'est-à-dire que ça plaît aux yeux tout de suite. La palette de couleurs est hyper équilibrée, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est ça un peu l'idée, quoi. Et Ori, pour le coup, si on regarde, eux le font ça à fond, quoi.
Comment ça a fonctionné, votre processus pour créer du décor? Alors, comme tu dis, vous partiez de blocs simples pour le level design, et peu à peu, vous rentriez en profondeur pour l'habillage. Genre, vous aviez une idée précise avant d'avoir les mains dans le côté artistique du jeu, alors, à chaque fois?
Ouais, le truc qu'on a, enfin, sur cet aspect-là, c'est le premier truc qu'on a décidé, c'est on fait un platformer. Ça, c'était le premier truc qu'on s'est dit, dans le sens où c'était une zone de confort pour moi déjà. Et du coup, ça nous permettait surtout de nous exercer sur le côté contemplatif, comment dire, ouais, le côté Ori, Little Nightmare, etc. Et après pour les décors, enfin c'est ça, c'est dans le sens que un platformer, il y a beaucoup de codes aujourd'hui, même dans les jeux d'avant, quoi, où il y a beaucoup de choses des idées qui ont été cool, des trucs de base, genre la parallaxe, en fait, par exemple pour créer un effet 3D, des trucs comme ça, de la profondeur et tout, alors que par exemple avec un jeu type Top View, c'est faisable mais plus compliqué, et il y a d'autres codes qui sont un peu durs à manier quand on va faire un truc très contemplatif. Donc ça partait de là, et après du coup on a très vite posé le level design, donc vraiment sous forme de blocs noirs, pour se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux joueurs. Et on était dans une logique très basique de là, le joueur, il va arriver dans un tunnel, donc c'est très resserré, et après il arrive dans une grande zone ouverte, enfin vraiment des trucs très basiques. C'est vraiment du, sur le papier, c'est du cliché du level design de comment on fait différentes émotions, mais on est vraiment allé poser ça un peu partout. On avait un gros dézoom, en fait, de tout le jeu, où on se disait il y a une narration un peu où on veut que le joueur commence par s'enfoncer de plus en plus. Donc en fait, si on regarde tous les niveaux, on va de plus en plus dans les profondeurs, et il se passe des trucs dans le jeu qui fait qu'à un moment, symboliquement parlant, en fait, on a atteint le clou du spectacle, et du coup on s'envole vers la fin, etc. Il y avait tout un truc comme ça où on l'avait dessiné un peu en avance, donc les level design dès le début étaient posés quand même dans une notion toujours de ce niveau là c'est de la descente, ce niveau là c'est encore plus, celui-là c'est il y a la fameuse ligne droite et tout, et celle où on court très vite et tout. Donc on avait un peu tout posé à l'avance, et après quand il a fallu habiller, là, la question qu'on avait, elle a été répondue assez vite, mais il y avait ce truc de genre, est-ce qu'on fonctionne avec du tileset, avec du pixel art, donc vraiment comme Mario et tout, c'est-à-dire des blocs de décor et tout, ou est-ce qu'on passe sur une méthode qui, en fait, moi j'ai de base dans ce que je fais, et qui est beaucoup plus inspirée de process liés à des jeux 3D, où en fait on fonctionne en props, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir habiller les éléments avec des éléments qu'on design à part, donc un rocher, des trucs comme ça. Et en fait, vu qu'on voulait un jeu hyper contemplatif, on a tout de suite pris, et donc d'où vient les 8 mois, hein, ça vient de là, ce truc de, on se dit, on va vraiment prendre le temps d'habiller chaque truc à la main. Et la plupart du temps, en fait, même les très gros éléments de décor qui m'ont pris un mois à être faits, ils vont servir pour un endroit en particulier dans le jeu, et c'est tout, quoi. Et donc, après, comment c'est fait au sens large, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'il y a le background et la partie gameplay. Et en gros, le background, je faisais souvent des éléments qui se répétaient plus ou moins, mais de très loin, donc ça se voyait pas, c'était des grosses pièces assez uniques. Et en fait, après, au premier plan, là, je faisais quand même des trucs qui, donc pas des tiles dans le sens, pas un tile set dans le sens des blocs, mais des trucs qui tile dans le sens où, par exemple, un parterre d'herbe, on peut le mettre côte à côte, ils vont bien s'assembler entre eux. Et après, je faisais des coins, des trucs comme ça et tout. Et en fait, je d'abord posais souvent ces éléments tileable. Donc, tous les sols d'herbe, je les mettais avec de l'herbe, etc. Tous les rochers, par etc. Et après, en fait, chaque zone, souvent, je jouais au jeu en prenant la manette en main. Et quand j'arrivais dans une zone, je me disais, tiens, bah là, ce serait cool que ce soit ça. Donc, que cette pièce, par exemple, ce soit une pièce, une salle de contrôle, etc. Donc, j'avais chopé des rêves sur Internet. Et bah en fait, j'étais en mode, ah, bah dans une salle de contrôle, il y a toujours des écrans, donc je vais mettre des écrans, etc. Donc, il y avait un process très logique, finalement, plus qu'artistique, entre guillemets. Enfin, c'est quand même, ça reste artistique, mais dans le sens où il y avait très un truc de... Pas, on a vraiment, étape par étape, on a construit logiquement l'univers qui devait être, ce qu'on voulait faire vivre aux joueurs, donc ce qu'il doit traverser, et donc vu qu'il va traverser, ce qu'il doit ressentir, ce qu'il ressent qui descend, etc. Et donc, en fait, s'il descend, à quoi doit ressembler le level design? Et donc, s'il ressemble à ça, le level design, qu'est-ce que ça peut être comme endroit? Et donc, après, à partir de là, on cherche des références, on crée des props, donc par exemple, un bureau, une lampe, des trucs comme ça, et on vient habiller cet endroit, et des fois on pouvait le réutiliser pour d'autres endroits dans le jeu, il y a des bureaux, il y en a plusieurs, par exemple, des trucs comme ça, et voilà quoi. Et d'où le truc que ça a pris 8 mois, quoi. C'était long, mais au moins ça permet d'avoir un résultat, où, surtout pour du pixel art qui est très connoté arcade en général et tout, là on a un rendu qui ressemble beaucoup plus à des Little Nightmares et tout, où c'est très par propre, c'est donc très plus organique quoi qu'un jeu vidéo très arcade. Quoi.
Axé sur l'ambiance, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. De l'ambiance, puis voilà. Et bon, il y a quand même des contraintes liées au pixel, mais on a ça, c'est aussi un truc perso, c'est que moi quand je fais des jeux depuis longtemps, même quand j'étais freelance en pixel art, j'ai un peu ce truc de, en fait, j'ai fait des études dans le jeu vidéo de graphiste où j'ai appris sur tous les process de boîte triple A et tout, donc de la 3D, des trucs comme ça, et donc en fait forcément j'arrive dans le pixel art sans avoir spécialement une volonté de faire du rétro, et donc on va dire que les process de création rétro, même s'ils m'intéressent parce que c'est de la culture, etc., entre guillemets, moi, dans ce que je fais, je m'en fiche un peu, dans le sens où je veux faire des trucs qui ont de la gueule, qui tombent beau. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses liées à des process plus modernes qu'on a dans la 3D, les grosses boîtes AAA et tout, qui, en fait, sont super pratiques. Et j'ai beaucoup récupéré ça dans mon pixel art, ce qui fait que je me retrouve... Il y a aussi ça, et c'est un truc que j'ai pas précisé, mais j'ai taffé beaucoup à un moment avec The Last Night. C'était un jeu, là, qui est toujours pas sorti, qui est un jeu, en fait... Le trailer, il avait été à l'E3 en 2017 et tout, et ça avait fait de l'effet parce que c'était pixel art 3D. Et en fait, eux, ils assumaient à fond ce côté de oui, c'est du pixel art parce que c'est pratique en termes de pour produire plus que de la 3D, ça va, il y a plein de choses plus pratiques. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'empêcher de mettre des effets de lumière de fou, des effets 3D, des particules, etc., etc., quoi. Et ça, moi, j'ai beaucoup récupéré ça dans ce que je fais maintenant, quoi. C'est ça, cette logique de oui, on fait du pixel art. C'est un médium, c'est un outil, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire du rétro et avoir une esthétique rétro ou même jeu indé, entre guillemets, quoi. Et c'est, moi, c'est avec Shippy notamment, c'est beaucoup ce qu'on a voulu faire, de trucs de... Oui, c'est du jeu indé par définition, vu qu'on a un petit budget, une toute petite équipe, enfin, c'est-à-dire moi, mais on va quand même essayer de faire un truc qui a de la gueule pour de vrai, quoi, qui est pas juste... voilà, qui est pas rabaissé à ce côté petit jeu indé pixel art. On va pas s'empêcher de se lâcher en termes d'effets, quoi, de trucs qu'ont du style, quoi.
Alors, j'ai une question qui est peut-être très naïve et désolée d'avance. Comment tu fais ces effets de lumière avec qui sont dans Shippy, en fait, et qui sont si c'est des pixels, parce que forcément tout ce qui est à l'écran c'est des pixels, mais qui ont moins l'aspect pixel art, en fait, et qui donnent une véritable atmosphère à ton jeu, en fait. Comment on fait ça?
Non, mais là où t'inquiète pas, t'es pas la première du tout à le demander et tout, mais c'est ça dont je parle, tu vois, qui est rigolo, c'est qu'en fait c'est vraiment juste sur Photoshop ou quoi, je vais faire un rond flou, tu vois, donc vraiment tu prends le brush de base de Photoshop, tu le mets en flou, tu cliques voilà, ça je l'exporte. Ou alors des fois je fais juste un dégradé, hein. C'est vraiment genre mon image sur Photoshop, c'est un carré avec un dégradé noir de là à en flou jusque là, enfin en transparent. Et en fait ça je le mets dans mon moteur et je le mets partout. Et c'est-à-dire que je veux créer au loin une ambiance très brumeuse et tout, bah je vais prendre ce fameux dégradé là qui part du bas vers le haut et en fait je vais le mettre sur tout l'arrière. Et donc en fait tous mes différents éléments pixels, bah devant il y aura une espèce de flou et que je vais mettre une couleur par exemple un peu bleutée, comme ça va faire une sorte de brume bleutée. Après je vais baisser son opacité dans le moteur et tout, et ça va donner cet aspect brumeux dégradé. Et c'est pareil quand dans le jeu il y a des flashs ou des explosions et tout, je vais juste mettre un rond blanc qui va apparaître disparaître quoi, et voilà, ça, tu vois, il y a un truc très si tu prends du recul et que t'enlèves un peu la magie de pour du pixel, c'est impressionnant. Tu te rends compte qu'en fait, c'est juste d'un truc de comme si tu dessinais sur Photoshop, où tu vas juste mettre des zones de flou et des zones pas floues, tu vois. Et il y a un truc en réalité très, entre guillemets, basique, tu vois, mais auquel on pense pas quand on se base sur c'est du pixel art, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est normal, tu vois. Et on me le demande souvent, quoi. Et d'où le truc de moi, je pense, ce truc-là, pour moi, c'était plus logique dans le sens où j'ai pas voulu apprendre à faire du pixel art, tu vois. Enfin, je me suis retrouvé à en faire en game jam et tout, mais de base, j'avais ce bagage de je fais des jeux vidéo. Et donc, en fait, je me sers de mes outils pour faire des trucs. Donc, en fait, les dégradés, les trucs comme ça, c'est pas du tout un effet de style que j'ai trouvé au bout d'un moment. C'était vraiment un truc qui me servait de base quand je faisais de la 3D aussi ou de la 2D, quoi.
Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que on utilise plein de techniques différentes et qu'on les voit pas forcément, mais justement parce que la magie opère particulièrement bien.
Non, mais carrément. Ben, de toute façon, c'est ça qui est génial. Enfin, moi, c'est un truc... là, c'est des phrases un peu clichés aussi de dev, mais... Mais et j'en parlais encore avec un pote tout à l'heure, mais il y a un truc de... On réfléchit beaucoup, pas dans le vide, mais beaucoup à des idées, un peu à essayer de trouver le truc qui fait que ça va être génial et tout. Mais je trouve que souvent, les gens que je considère comme très talentueux, et moi, c'est en tout cas à ça que je tends quand j'essaie de faire des jeux et des trucs, et de comment dire, c'est essayer de s'amuser en faisant des trucs et avec le côté de prendre du recul sur... ne plus être dans cette attitude un peu d'adulte développeur de dire oui mais ce que j'ai fait c'est pas optimisé ou alors ça c'est trop facile entre guillemets. Souvent c'est un peu ça que je ressens, c'est chez des gens où ils disent c'est trop facile, ça doit être sûrement plus compliqué, ou si je veux un truc qui a du style faut que je fasse un truc plus complexe et tout, alors que essayer d'oublier ça et de revenir plus à ce truc d'enfant de on met un effet de flou et on se dit waouh c'est trop bien, c'est genre et ça ce que je veux dire c'est que je vois que dans le milieu du jeu vidéo, ça c'est quand je vous disais que ça manque un peu peut-être que les développeurs sont parfois un peu trop dans leur monde à eux et se tournent moins, enfin oublient de se tourner vers les joueurs. Il y a ça, c'est que souvent je vois des développeurs qui font des trucs dont ils sont fiers parce qu'ils savent que les autres développeurs ils vont être impressionnés plus que parce qu'ils se disent que les joueurs vont kiffer. Et du coup on se retrouve avec des trucs ou des discussions par exemple entre développeurs où quelqu'un va dire ah ouais tel jeu c'est hyper impressionnant quand ce qu'ils ont fait avec ça. Et par contre, ils oublient complètement que le jeu en question, les joueurs ont pas aimé parce qu'en fait, le jeu est pas très intéressant, quoi. Et ça, c'est un truc qui arrive très souvent dans le milieu des développeurs, quoi, d'où c'est très tourné vers ce qu'on est capable de faire techniquement ou un truc comme ça, mais qu'on oublie l'aspect de faut que ce soit cool tout court, quoi. Et de toute façon, ça c'est un gars qui m'a dit ça aussi, je trouvais ça très vrai. Il m'a dit de toute façon. Tu regardes, c'est quand j'essaie d'apprendre la programmation et tout au début, où moi je galérais, mais ça marchait des fois. Et du coup, ça me complexait un peu parce que j'ai pas fait d'études de programmation et tout. Et un gars qui fait de la programmation, je connais, il m'a dit, de toute façon, tu regardes la plupart des très très bons jeux, le code souvent est horrible. Et parce que c'est souvent des gens qui sont plus concentrés à essayer de faire un bon jeu qu'à essayer de faire de la belle programmation qui va impressionner tout le monde. Et ça, c'est un truc. Je l'ai appris avec le temps, quoi, en regardant des projets de jeux. Alors, un qui est connu, j'ai pas jamais mis la main dessus, mais apparemment Undertale, qui est codé n'importe comment. Et voilà, moi, je savais pas du tout. Et c'est des trucs comme ça où, en fait, c'est presque un running gag chez les développeurs où, en fait, quand tu fais du code horrible, en fait, on va te vanner en disant, toi, tu vas faire un pur jeu, c'est sûr, tu vois. Genre. Et.
Les vrais artistes, quoi, comme on dit.
Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Mais du coup, ça fait relativiser beaucoup et c'est vrai, quoi. C'est et bon après je finis mais juste pour le dire c'est ça typiquement c'est ça c'est moi je me rends compte que enfin c'est un truc que je me suis déjà dit avant mais le fait que je suis d'abord un graphiste avant d'être un développeur ça a été quelque chose d'utile quand j'ai fait notamment Shippy parce qu'en fait souvent je me concentrais à faire un truc qui marche le plus vite possible, plutôt qu'à essayer d'appliquer mes cours que j'aurais pu apprendre en programmation de si je dois coder un truc, c'est comme ça. C'est des trucs, alors, si des gens qui sont développeurs et ils entendent ça, et voilà, ils vont comprendre de quoi je parle. Par exemple, il n'y a aucune fonction en Shippy. J'ai jamais codé de fonction. Et alors, c'est peut-être propre à construire, je sais pas, mais bon, cette logique de call des fonctions et tout, je l'ai jamais fait dans Shippy parce que je savais pas que ça existait et ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Mais pour dire que ça marche quand même, quoi. Il y a plein d'aspects comme ça dans le jeu où, pareil, j'ai pas utilisé de. J'ai oublié le nom. Espèce de tableur, là.
The Ray.
Ouais, voilà, merci. Tu vois. Bah, j'en ai jamais utilisé non plus dans Shippy, tu vois. Et c'est des trucs où. Ou quand je dis ça à un prog, ça l'énerve, et je peux comprendre. Mais en fait, et en plus maintenant avec ces 3 ans de dev, forcément, je me rends plus compte à quel point ça aurait pu me servir. Mais de base, j'essaie juste d'être logique dans le moment à faire un truc qui marche. Et en fait, ça m'a pas fait perdre du temps. Au contraire, ça m'a sûrement permis d'éviter beaucoup de prises de tête de développeurs à vouloir faire un truc hyper organique, très bien codé, qui fait qu'en fait après tu t'éparpilles et tu te perds souvent dans des trucs, quoi.
Et pour le débugage, c'était pas compliqué justement de pouvoir avoir le code le plus propre du monde.
Oui. C'était pas tout blanc, hein, je vais pas te mentir. Mais non, il y a des trucs. Alors, enfin, oui, non. En fait, c'était compliqué dans le sens où c'était quand même un peu le bordel, forcément. Mais l'avantage, c'est que c'était quand même tout très. En fait, c'est comme un enfant qui fait du code. Il y a un truc de. Il écrit avec des mots simples et du coup, il fait des trucs simples. Donc, en fait, il y a notamment. Qu'un développeur, Skyman, qui est un développeur construct et tout, qui est très sympa et tout, qui est venu un peu m'aider sur le projet à plusieurs reprises, et qui, en fait, je lui ai demandé forcément au début si mon code ça allait, etc., parce que vu que je suis pas codeur à la base, s'il s'est retrouvé ou pas, et en fait, il m'a dit que c'était pratique, qu'il s'est retrouvé assez facilement parce qu'il y avait un truc très logique de bébé, entre guillemets, de. Le bonhomme, ça va là, donc je fais un dossier qui s'appelle bonhomme, et du coup, en fait, tout était rangé très basiquement, on va dire, quoi. Et donc, en fait, même si c'était apparemment assez atypique, mon code, pour s'y retrouver, c'était très basique. Et au final, apparemment, c'était bien. Et même moi, quand j'ai dû faire du débugage et tout, ça allait assez vite. Et surtout, ça donnait, encore une fois, un jeu qui était assez léger niveau code, puisque justement, il n'y avait pas de array, il n'y avait pas de truc qui faisait que ça demandait une hiérarchie un peu complexe et tout. C'était très du A plus B égale C, quoi. Et donc, en fait, on se retrouve dans un code qui est assez minimaliste, en réalité. Et bon, et aussi, ça va avec le jeu qui est juste un platformer assez contemplatif. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de. Donc, il y a très peu de code au final. Voilà. Donc, non, à débugger, ça allait. Les seuls trucs qui ont été compliqués, mais ça, c'est des sujets un peu plus larges, c'est que le moteur que j'utilise, Construct, c'est un moteur, en fait, qui est fait plus pour débutants à la base, on va dire. Dans le sens où c'est du visual scripting, dans le sens où on code pas avec du langage, on code avec des bouts de phrases en fait déjà faites. Donc c'est vraiment sujet verbe complément de dire si la souris clique sur le bonhomme égale le bonhomme est détruit par exemple. Donc vraiment des trucs très avec des bouts de mots qu'on assemble comme ça. Et donc en fait c'était déjà assez pratique, mais le truc c'est qu'on arrivait à un moment où moi là je fais pas du code et pour débugger des trucs où c'est des notions de performance ou de trucs liés à, vraiment au moteur, comment il fonctionne et tout. Bah en fait, là, par contre, il y avait un blocage de ma part parce que en fait, ça devenait des trucs où il fallait connaître des outils de développeur, savoir c'est quoi des trucs basiques hein, sur le papier, mais le GPU, le CPU, savoir comment ça marche, savoir est-ce que c'est bien que ça consomme plus du GPU ou du CPU, c'est des trucs que moi, je connaissais pas du tout, que j'ai dû apprendre. Et de toute façon, même, j'ai dû passer par des devs, pour le coup, que je connaissais, qui m'ont filé un coup de main parce que ça change. Mais ça, c'est un peu un truc aussi que j'ai appris, c'est qu'en fait... parce que même des développeurs que je connais qui sont pros, c'est leur métier, qui sont venus m'aider, même eux ont galéré en fait. C'est un truc, moi quand j'ai commencé, je m'attendais à me dire que si j'ai besoin d'aide, je vais demander à des développeurs pros de m'aider, et eux, un truc que je galérerais à régler en une semaine, ils vont me le régler en 10 minutes. Je m'attendais à des scénarios comme ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la réalité est un peu différente, parce que déjà en fonction du moteur, c'est pas du tout la même manière de faire. Donc en fait, un développeur qui fait du Unity ou du Unreal, qui sont des moteurs plus d'adultes on va dire, qui arrive sur Construct, qui est un moteur pour bébé. En fait, il galère autant que moi parce qu'ils doivent quand même comprendre comment le moteur fonctionne et tout. Et surtout, il y a un autre truc que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, des développeurs, ils ont des process pour régler des problèmes, mais ça veut pas forcément dire qu'ils vont te le régler et te le comprendre. Et parfois, ça peut leur prendre 10 minutes, comme une semaine, un mois. Et on arrive aussi au moment où on arrive sur des moteurs comme Construct, qui sont des moteurs moins connus par les professionnels. Et du coup, les professionnels n'ont pas forcément eu le temps d'expérimenter des choses avec, et par exemple de savoir que si le jeu se met à galérer, c'est à cause d'un truc du moteur. Et donc, en fait, ça, c'est un truc vraiment que je me suis rendu compte, c'est que la programmation au sens large et faire des jeux, il y a un aspect beaucoup plus organique que mathématique. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout. Et ça m'a beaucoup fait comprendre aussi que si on veut faire des jeux, je le dis au cas où ça intéresse des gens, mais le truc de, en mode conseil perso et tout, mais faire des jeux, c'est beaucoup plus organique que mathématique que ce que j'imaginais. Et au final, il y a beaucoup plus un truc de, il faut pas oser, hésiter au début à y aller un peu de manière chaotique, quitte à réorganiser les choses plus tard pour être sûr quand même qu'on s'y retrouve, quoi. Mais avec un aspect de le truc de comment il faut faire, comment il faut coder ça correctement, ne pas trop avoir peur de faire un peu aussi au feeling sur ce qui a l'air de marcher, tout en essayant d'être propre évidemment et sérieux, hein, évidemment, mais et de se dire que de toute façon, il faudra voir plus tard si ça marche ou pas et des trucs comme ça, quoi. Sur le papier, c'est un peu risqué ce que je dis, mais il y a quand même un truc assez réel que j'ai vu durant ces 3 ans où j'avais beau m'organiser des fois très très bien et à vérifier avec plein de gens autour de moi, des développeurs, si ce que je faisais c'était bien et tout, pour qu'au final, un an et demi plus tard, je me rends compte que d'avoir fait comme ça, ça cassait le code ailleurs, dans un truc qui était imprévisible parce qu'en fait, fallait savoir que le moteur sur des écrans à 120 FPS, et ben, en fait, ça fonctionne comme ça. Enfin, c'est des trucs hyper spécifiques que aucun forum n'en parle, etc., etc., parce que c'est limite propre au jeu, qu'on est en train de faire. Et du coup, il y a un côté de, faut pas avoir peur de tester assez vite des choses, quitte à y revenir plus tard, et il faudra sûrement passer du temps de toute façon pour comprendre d'où ça vient, quoi.
Tu parlais tout à l'heure d'amusement et de s'éclater à faire son jeu. Qu'est-ce qui t'a le plus amusé à faire dans Shippy?
Bon, bah, c'est pas le code déjà.
on se vient un peu douter.
Enfin, ça dépend des gens, forcément. Mais moi, oui, je suis plus graphiste de base, donc forcément. Mais ça dépend. Il y a eu beaucoup de choses très cool. Moi, je sais que je suis un peu partisan du truc. Alors ça, je peux le raconter rapidement, mais ça vient du fait que quand j'ai travaillé pour. Quand j'étais encore freelance, j'ai travaillé pour Camisotto, qui est le développeur de There Is No Game. Et alors quand je dis j'ai travaillé à peine, parce qu'en fait justement j'ai fait quelques assets pour lui. Et en fait très vite je suis parti sur un autre boulot et tout. Et là où pour être totalement transparent, j'ai pas été très cool, c'est qu'en fait à l'époque quand je suis arrivé, il m'a dit voilà pour mon jeu, faut que tu me fasses un tournevis en pixel art, une poubelle Windows, enfin des trucs. Sur le papier où j'étais pas très content parce que c'est moins cool que quand dans un taf on va me dire faut que tu designes des boss, des monstres, des attaques de flammes. Enfin, il y avait tout un truc comme ça où ça m'avait un peu refroidi. Alors que le jeu qu'il avait fait avant, There Is No Game, il avait fait une version de jam, j'avais adoré et tout, et je lui avais dit. Mais en fait, j'étais dans une période aussi peut-être un peu plus jeune et ingrat entre guillemets, je pense. Et à l'époque, j'étais un peu parti vite du projet parce que entre guillemets, ça me saoulait, quoi. Et en fait, le jeu est sorti, son jeu, There Is No Game. Et en fait, bah, le jeu, alors pour ceux qui l'ont pas fait, il est incroyable. Moi, c'est un des jeux, je le mets de très loin dans mes 10 jeux, surtout, enfin, en termes de goût déjà, mais en tant que développeur, ou pour moi, c'est ça un très bon jeu. C'est-à-dire qu'on lance, on s'amuse, quoi. Il n'y a pas de, enfin, et du début à la fin, ça surprend. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que ce jeu, je le vends, je le vendrai, je le défendrai, toute ma vie, je pense, sur ce qu'il est, en fait, au sens large. Et en fait, bon, moi, ça m'a mis une claque. Et en fait, là, j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là, d'autant plus quand j'ai vu, bah, du coup, mon nom dans les crédits, ça m'a fait un peu, j'ai eu un peu honte, entre guillemets, dans le sens où j'ai vraiment fait 3 assets et je suis parti. Il y avait un côté un peu de, j'assume pas trop d'avoir mon nom dans les crédits sur un truc comme ça. Enfin, un jeu qui est, entre guillemets, aussi bien. Et ça m'a fait beaucoup relativiser sur beaucoup de trucs, et notamment le truc que je me suis rendu compte, et c'est pour répondre à ta question, tu vas voir, mais c'est dans le sens où, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir, c'est pas tant de faire des trucs en pixels qui sont cool, c'est aussi de faire des trucs bien. Et en fait, enfin, des bons jeux, des bonnes expériences à la fin. Et en fait, je me suis rendu compte que, entre guillemets, faire un tournevis en pixel art, c'est pas très intéressant sur le papier. Mais quand, en fait, on va cliquer avec le tournevis et que là, il va y avoir une super animation du tournevis qui tourne, bah, même si c'est un, entre guillemets, ingrat comme boulot, quand on va le mettre dans le jeu et qu'on va cliquer, ça va être trop cool. Et c'est un truc, ça c'est un truc que j'ai compris notamment avec ça, et du coup dans Shippy je l'ai vécu à fond plein de moments, c'est qu'il y a plein de moments qui sont assez ingrats sur le papier, où on se lève, on doit avancer sur un truc, ça fait déjà 3 semaines qu'on est dessus, et on se fait un café et c'est parti, il faut bosser toute la journée dessus, et c'est juste automatique comme boulot, faut juste produire des assets, des frames ou des trucs comme ça d'animation, mais en fait à la fin on met tout dans le moteur, et on fait play, et là c'est trop bien, ça il y a des moments comme ça, il y en a eu pas mal, et ça, c'est vraiment quand même des trucs super cool, quoi. Et de toute façon, ça, c'est un conseil. Du coup, quand je fais prof, des fois, je fais intervenant dans des écoles. C'est un des trucs que je dis souvent aux étudiants, c'est que faut pas oublier qu'en fait, on est, peu importe notre domaine, qu'on soit graphiste ou, enfin, qu'on soit game artist, game designer, etc., il y a le mot game dedans. Sous-entendu, on est là pour faire des jeux. Et en fait, souvent, je dis ça dans le sens, les game artistes, et j'en suis un à la base aussi de formation, on a tendance à plus se focus sur Photoshop, sur notre outil de graphisme, et à pas se focus sur le moteur et là où on fait le jeu, en fait. Et ce qui fait qu'on se retrouve, et ça, c'est un truc typique d'étudiant, et je l'ai été, donc je sais, où en fait, on fait des trucs qu'on trouve très jolis sur Photoshop, mais en fait, comment c'est mis dans le jeu, comment c'est intégré, ce que ça donne manette en main, on s'en fout, et on fait pas gaffe. Et en fait, on se retrouve avec des jeux, et même en jam, c'est un peu un truc récurrent, en game jam, des jeux comme ça, où il y a un dessin, la personne qui a dessiné le personnage, elle a passé 10 heures sur le personnage, mais en fait, dans le jeu, ça rend pas bien. Et ça, c'est un truc que j'ai compris, notamment avec Days No Game et tout, et ces dernières années, c'est qu'en fait, il faut faire des trucs qui rentrent bien, mais dans le jeu. Quand c'est en mouvement, par exemple, pour un environnement dans de la parallaxe, avec de la brume, par exemple, pareil pour un personnage, une animation, une pause et tout, faut que ce soit bien dans le jeu, quand c'est en mouvement, quand on contrôle le perso, quand on appuie sur un bouton, l'animation de saut, qu'elle soit jolie sur Photoshop ou notre outil d'animation, peu importe, c'est bien, mais en fait, si ça se trouve, on va la mettre dans le jeu, quand le personnage va sauter, ça colle pas du tout. Et c'est des trucs comme ça, quoi. Et ouais, enfin, tout ça pour dire, du coup, moi, c'est ça, c'est les moments que j'ai kiffé et tout, au sens large, c'est quand tu mets le truc dans le jeu et que tu croises un peu les doigts et qu'en fait, ça rend bien et que ça marche et que ça y est, t'y es, quoi. Et que même tu fais tester à des gens, ils sont pris, quoi. Et ça, c'est trop bien. Il y a un truc, enfin, juste pour donner un exemple très vite après j'arrête. Mais c'est... alors, sans spoil, genre à la fin du jeu... il se passe un truc, il y a une cinématique, et il se passe un truc où il y a un plot twist, un revirement de situation, et en fait, tous les joueurs comprennent, c'est-à-dire qu'on est en mode « Oh non, pas lui !» et tout, et là, il se passe un truc, « Oh, en fait, il est gentil avec nous !» Et là, en fait, le fait que ça, c'était vraiment un truc où, en fait, c'est une cinématique où j'ai pas de son, enfin, je veux dire que les personnages dont je ne parle pas, et un truc comme ça, etc. Et en fait, il y avait tout le défi de faut que les gens comprennent. Et ça a pris une semaine ou deux d'animation, parce qu'en plus, c'est une longue cinématique et tout, et il y a beaucoup de code à faire aussi et tout, parce qu'il y avait des trucs animés en code. Et de tout mettre, machin, et de commencer à faire tester à des gens, et de voir qu'à chaque fois, ils ont cette même réaction, avec donc dans l'animation de la cinématique, il y a vraiment juste une micro-animation à un moment où c'est un regard qui fait toute la différence, entre guillemets, qui fait que ça marche, quoi, que les gens comprennent. Et le fait qu'à chaque fois ça marchait quand je testais à des gens, en mode j'ai eu un 10 sur 10 de tout le monde comprenait, ça a été un soulagement énorme et surtout un plaisir de dire ok, l'émotion, entre guillemets, l'aspect narratif du jeu, l'émotion là, de revirement de situation et tout, elle marche, quoi. Les gens sont pris dans le truc. Et ça c'était trop bien, ça. Moi j'ai adoré.
Travail qui paye, quoi.
Ouais, c'est ça, quoi. Il y a un truc. Ça connecte, en fait, quoi, avec les gens et tout. Ça, c'est trop bien, moi j'aime beaucoup.
Non, mais c'est super intéressant. Si tu devais résumer Shippy en une phrase.
Ça, c'est dur. Ça, je sais pas. En plus, moi, je parle beaucoup.
Elle peut être longue, mais en une phrase.
Avec beaucoup de virgules.
non, mais en vrai, je pense que je peux quand même dire ça. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je pense que Shippy, en gros, c'est un jeu qu'on a essayé de faire parce qu'on voulait faire un jeu qui est accessible à tout le monde et qui peut être vécu par tout le monde, quoi. Pour le dire autrement, en mode version 2 de la phrase, c'est genre, c'est un jeu qui a des mots, mais j'ai envie de dire universel et tout, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais dans le sens où un truc en tout cas qui était vraiment important pour nous, c'est que quand quelqu'un par exemple, ça, on en a eu beaucoup et c'est vraiment un truc qui me fait plaisir, c'est des gens qui ont joué avec leur maman ou leur grand-mère, ou leur papa, etc., enfin, leurs parents, etc., et qui ont eu ce truc de... elle a réussi à aller jusqu'au bout. Si vous avez joué au jeu, il y a vraiment ce truc de... au début, c'est vrai que c'est très facile, surtout pour quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, mais au point où il y a des trucs invisibles, même. C'est des trucs dans le sens où, par exemple, tout début du jeu, premier niveau, il y a juste trois grosses marches à descendre, entre guillemets, à un moment. Et ça, c'est du détail pour, enfin, les joueurs habitués à jouer à des jeux s'en rendent pas compte, mais c'est volontaire. C'est que la caméra, elle est légèrement, faut vraiment attendre pour que la caméra se cale pour qu'on voit en bas qui est la marche suivante. Mais en fait, un joueur normal sait que de toute façon, c'est Mario, il doit avancer à droite, donc il avance, il descend, il s'en fout. Et en fait, un joueur qui est pas habitué à ces codes-là, lui, quand il avance, il voit du vide, il s'arrête, il attend, la caméra se recale, il voit le bas, et là, il descend. Et en fait, ces trois marches, typiquement, les gens qui sont des non-joueurs, entre guillemets, des non-gamers, on appelle ça comme on veut, des gens pas habitués à ce genre de code, Et en fait, rien que ce passage, pour eux, c'est déjà un peu un défi, quoi, de se dire je veux pas tomber, et des trucs comme ça, quoi. Et les trois sauts qu'il y a juste après, là, qui sont des sauts très très basiques sur le papier, et ben en fait, là, c'est la première épreuve pour beaucoup de gens, quoi. Et il y a des mamans qui ont joué, ou enfin des parents, ou des gens pas très jeux vidéo de base, qui en fait, juste les trois sauts, déjà, c'était une épreuve, quoi. Et y a, ce qui moi m'a impressionné, c'est qu'il y a vraiment des parents qui ont commencé à ce début du jeu où c'est dur pour eux, alors que c'est. Il y a vraiment un contraste énorme avec les gens habitués aux jeux vidéo pour qui c'est presque invisible le level design, quoi, tellement c'est automatique, avec la fin du jeu, où là, on se rapproche presque d'un céleste en termes de skills, dans le sens, faut vraiment enchaîner des pouvoirs et des trucs comme ça, avec des parents qui, en une heure à peine, ont réussi à être à l'aise avec les contrôles, et à vraiment... Alors, par contre, j'ai déjà vu des vidéos, c'est vraiment, ils passent une heure sur un passage parce qu'ils galèrent, mais ils veulent y arriver parce que ils se sentent confortables avec les contrôles, ils se sont appropriés les contrôles du perso, et du coup ils veulent vraiment dire non, je vais y arriver parce que je sais que je peux, quoi. Et ça change. Moi j'ai connu mes parents ou quoi le classique de tu demandes à tes parents d'y jouer parce que ça te ferait plaisir et tout, ils essayent et en fait au bout d'une demi seconde ils sont stressés, ils posent la main, tu fais oh non j'aime pas ça et tout. Donc là d'avoir des témoignages comme ça et tout, ça m'a fait plaisir. Ouais. Donc en une longue phrase, c'est ça. Mais c'est quand même ça, quoi. On voulait faire un jeu où ça nous tenait à cœur que ce soit un jeu qui est bien pour tout le monde, quoi. Pas juste pour entre guillemets les gamers.
Ouais, l'accessibilité, c'était vraiment votre core concept, quoi, on va dire.
Ouais, c'est ça. Faire vivre un truc pour tout le monde, quoi. Un truc comme ça, je pense.
Puis avec un personnage qui, ce petit mouton, parlera à tout le monde de toute façon. Le concept même de la peluche abandonnée, mine de rien, c'est assez universel aussi.
Ouais, c'est ça aussi, tu vois. Il y a un truc, je pense, il y a un truc très... très comme pour la partie de la cinématique de fin, où il y a des trucs que tout le monde comprend et tout. Ouais, c'est très universel ce qu'on... Enfin, que ce soit le message ou même l'ambiance générale du jeu, quoi. Le côté, je disais, très pop, c'est aussi ce truc de... oui, je te paraphrase, mais oui, le côté universel, quoi, de vouloir faire un truc peu codifié finalement et très universel.
Qui en même temps peu codifié et qui l'est très parce que ça parlera, parce qu'il y a les codes du jeu vidéo dedans et mais qu'on avance tout doucement aussi pour se les approprier au final.
Oui, ouais, c'est vrai. Non, mais oui, ça reprend quand même juste le fait que c'est un platformer et tout ça, qui est un truc très classique en un sens, mais peut-être y avait, là je réfléchis tout par rapport à ce que tu dis, mais il y avait peut-être une envie de faire. Une sorte de réintroduction au jeu vidéo pour les gens qui sont passés à côté, ouais, c'est vrai quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très, très classique en même temps, quoi.
Mais c'est ça qui fonctionne, je pense, et qui fait l'audience aussi large du jeu.
On a fait un hommage, je sais pas parce que j'y ai pas joué du coup, mais on a fait un hommage sans faire exprès au premier Prince of Persia. Parce qu'au tout début du jeu, là, de Shippy, il y a une trappe là, qui ouvre une grille, etc. Et apparemment, c'est cité par les gens qui connaissent le jeu vidéo, enfin les gens qui ont vécu ça aussi plus jeunes et tout, c'était un peu waouh, t'appuies sur un levier, il y a une grille qui s'ouvre et tout, et c'est pas du tout fait exprès, mais il y en a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire super hommage et tout.
Ah bah oui. Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent au quotidien et que t'aurais aimé avoir toi-même l'idée?
Y a des classiques, hein. Moi il y a des jeux, je les cite. J'aime bien avoir un avis ou des goûts originaux, mais là j'ai pas le choix. Moi j'ai déjà dit, genre Shadow of the Colossus, c'est je pense mon jeu préféré parmi d'autres, mais quand même c'est un jeu qui m'a marqué. En fait, quand j'étais petit, je savais moins pourquoi. Aujourd'hui, je le sais plus. Il y a un peu ce truc de Flippy est évidemment très différent, mais il y a ce truc de faire des jeux. Toujours ce truc moi que j'aime beaucoup, de casser le côté gamer codifié. C'est-à-dire que Shadow of the Colossus, les contrôles sont hyper atypiques. Mais parce qu'en fait, ils sont très propres à l'expérience du jeu. Et du coup, il y a un côté qui fait que beaucoup de gens ne peuvent ne pas aimer. Mais parce que de toute façon, le but clairement de ce genre de jeu, c'est pas forcément que t'aimes bien. C'est que ce soit ce que ça veut être, ça l'est. Et entre guillemets, tu peux ne pas aimer des choses. Mais par contre, ça va être très dur d'être objectivement, de trouver des points faibles au jeu parce qu'il est ce qu'il est un peu dans ce qu'il veut être. Et Shadow of the Colossus, typiquement, pour moi, c'est ça, quoi. Et c'est des jeux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui ont fait des trucs beaucoup plus impressionnants sur le papier. Par exemple, des géants dans Shadow of the Colossus, ils sont grands, mais il y a d'autres jeux avec des géants mille fois plus grands. Mais il y a quand même pas ce même truc, quoi. Il y a pas encore eu. Il y a des God of War, il y a des, des jeux comme ça où c'est des géants gigantesques, on les explose, il y a des mouvements de caméra fous, etc. C'est très cool et moi j'aime bien aussi ce genre de jeu. Mais Mais c'est de The Colossus, c'est vraiment un truc beaucoup plus concret qui moi me fait beaucoup d'effet. Et voilà, bon, typiquement c'est ça quoi. Donc ça, c'est, je sais que c'est des jeux. Alors j'aurais aimé avoir l'idée, c'est pas grave, mais moi je sais que j'ai jamais ce truc. C'est les discussions que j'ai avec des potes où je dis est-ce que si t'imagines l'idée du jeu que t'es, que t'as, t'apprends que quelqu'un d'autre l'a fait. Mais genre c'est vraiment pas à peu près la même chose. Non, c'est vraiment littéralement celle que t'avais et t'aurais pas pu la faire mieux. Est-ce que t'as le seum ou pas? Et en fait ça, j'ai remarqué que c'était un peu une question pour déceler qui a un côté créatif un peu perso. Donc en mode il a ses univers, des gens, etc. comme ça, et qui est plus dans l'acte de création de donner vie à des trucs cool, peu importe ce que c'est. Et autant j'ai des potes qui sont très dans ce truc de, ils ont leur vision, leur univers en tête, et du coup ils auraient le seum. Autant moi je fais partie un peu de l'autre camp, de gens de, moi si une idée que j'avais que je trouve trop cool, il y a quelqu'un qui arrive et qui l'a fait, limite tant mieux, j'ai plus à la faire quoi. Il y a un truc de, ça me fait, non mais c'est vrai, au moins elle existe et je suis très content. Et il y a plein d'idées comme ça que j'ai sur mon carnet et tout, d'idées où je me dis mais j'aimerais trop que ça existe ce jeu, et en fait bah si un jour j'ai l'occasion de le faire, je le ferai, mais si quelqu'un d'autre le fait, tant mieux quoi. C'est un peu ça quoi. Donc donc il y a pas spécialement de jeux où je me dis ah oh, j'aurais trop aimé que ce soit moi, c'est ça que je veux dire quand même quoi. Même s'il y a des jeux évidemment où c'est des modèles de ce que j'en fais. Mais il y a des trucs, enfin il y a des Shadow of the Colossus par exemple, mais il y a des trucs aussi c'est pareil hein, c'est moi Bomb Party, c'est un jeu que j'adore parce que il est basique dans le sens, enfin dans le format, c'est un jeu là où il y a une, c'est un jeu web, on se connecte à la room, il y a une bombe avec une flèche qui fait le tour de tout le monde quoi. Et en fait quand c'est ton tour, il dit trouve un mot avec OUR dedans attaché. Donc par exemple bonjour, tu vois. Et tu le mets et en fait la bombe elle, bah voilà, il y a, c'est une bombe, donc au bout d'un moment elle va exploser, donc quand c'est ton tour, faut te dépêcher quoi. Et c'est oppressant, un truc de fou. Et vraiment, alors en plus tu te gourres, ça accélère la bombe, tu vois, si tu te gourres de mots ou des trucs comme ça, si tu fais une faute de frappe et tout. Et c'est des trucs hyper basiques, ça c'est moi, c'est un truc que je respecte énormément, d'autant plus que je suis graphiste de base. Des jeux comme ça qui arrivent à te hook en termes de fun, quoi, tu vois, vraiment qui t'amuse, et encore plus avec des gens et tout. Et moi j'ai passé des heures dessus, j'avais un bon niveau à un moment, bon parti, et du coup je faisais partie des gens qui revenaient tous les soirs. Avec d'autres joueurs qui en fait on finissait par se connaître parce que les récurrents on était vraiment une poignée, et c'était une époque où il y avait même des gens qui avaient codé des bots sur Bomb Party pour jouer, qui étaient du coup super forts. Et en fait je faisais partie des petites communes de joueurs un peu récurrents où on essayait de battre les bots quoi, et on y arrivait des fois, et c'était trop bien parce qu'il y avait un truc, enfin c'est alors que je veux dire, je l'ai un exemple dans ma tête parce que c'est des jeux en code, si l'idée est déjà dans la tête, à coder c'est littéralement, et à développer tout court hein, c'est même pas une semaine quoi. Et ça, moi, je respecte de fou, quoi. Je respecte et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est des trucs que j'aimerais apprendre à faire aussi, quoi.
Avoir une idée pure et partir de là, quoi.
Ouais, un truc hyper percutant. Bah, c'est vraiment le parallèle que je fais. C'est comme les rockstars, quoi. Il y a des gens en musique qui font du jazz. C'est beaucoup de théories hyper complexes. Ils écrivent un morceau, ça va leur prendre 10 ans parce qu'il y a des trucs, théories musicales hyper complexes. Nous, il y a des rockers qui arrivent, ils prennent une guitare, ils font un accord de débutant. Mais quand eux, ils le font, ça prend, quoi. C'est genre, c'est hyper puissant et tout. Et ça, il y a des créatifs, enfin des, dans le jeu vidéo, il y a des gens comme ça qui ont des idées. Des fois, ils disent une phrase et c'est fini, quoi. Tu es en mode, c'est une dinguerie, quoi. Et ça, je respecte à fond, quoi.
Et alors, est-ce que tu as d'autres projets là pour la suite?
Non. Ouais, j'en ai.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Bah, pas de tout, pas de tout, parce qu'il y a des trucs qui n'impliquent pas que moi. Mais, enfin, pour faire simple, il y a quand même ce truc de Suicide Ship. On a eu beaucoup de discussions. Et évidemment que comme moi on aimerait aller plus loin, parce que bah, le fait que ça a été reçu comme ça chez Pi, c'est un truc, encore une fois, on s'y attendait pas, en tout cas pas à ce point là et donc ça nous a fait plaisir, enfin on s'est dit que vraiment les 3 ans là ils étaient récompensés quoi, donc ça donne vraiment envie d'aller dans ce sens là encore. Maintenant concrètement comment et tout, on y réfléchit. Et ça, on verra bien. Moi, de mon côté, le principal truc, j'ai dit un peu avant, c'est que j'ai plus envie de travailler tout seul. Ça, c'est un truc que j'ai appris et j'ai envie d'apprendre, on va dire, à travailler avec des gens, parce que ça s'apprend aussi, quoi. C'est quelque chose. En freelance, j'ai beaucoup bossé avec des gens et surtout en freelance, on va très vite de projet en projet. Donc, on fait beaucoup de rencontres, on découvre beaucoup d'ambiances différentes et tout. Mais maintenant, concrètement, bosser avec des gens, on va dire, sur un projet à long terme, qui est notre projet, entre guillemets. Ça, c'est autre chose. C'est un truc qui s'apprend parce qu'il y a beaucoup de trucs liés à l'ego, à l'organisation et tout. Je le vois autour de moi, en fait, hein, des gens qui bossent pas tout seuls, où c'est ça qui va beaucoup créer des problèmes au sein des productions. Ce qui fait que les jeux sont pas toujours mauvais en sortant, mais ils sont souvent en tout cas moyens ou un peu tièdes. Et moi, je veux éviter ça. Donc il y a une vraie envie de rencontrer des gens avec qui travailler, de faire des petits projets pour voir où ça peut nous mener et tout. C'est déjà des trucs façon avec des potes que je commence à faire, de faire des petits projets comme ça d'une ou deux semaines. Et après voilà, il y a des trucs, c'est beaucoup de trucs, des réflexions perso et tout. Pour l'instant il y a rien de lancé, mais cette année il y a des choses que j'aimerais faire et tout. Aussi de, c'est des trucs, tout le truc que je vous disais, de créer un pont entre les gens qui font du jeu vidéo et les gens qui aimeraient en faire et tout, ça c'est un truc, j'y pense beaucoup, et je le dis maintenant, j'en profite, mais notamment pour sensibiliser les gens qui aimeraient faire du jeu vidéo sur les écoles, parce que ça c'est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui en fait sont créées pour de mauvaises raisons. C'est même pas tant que, pas envie de dire le mot on va dire, mais c'est même pas tant que c'est des arnaques, parce que c'est pas aussi simple la réalité, mais c'est que c'est des écoles créées pour par des gens qui se rendent pas compte de certaines réalités liées aux jeux vidéo et qui en fait du coup se retrouvent avec des intervenants, des profs qui vont pas forcément permettre aux étudiants, malgré qu'ils payent 10 000 euros une année des fois, à avoir un boulot en sortant. Et ça c'est des trucs où l'idée du coup c'est pas de commencer à attaquer les écoles ou quoi, mais c'est en tout cas de commencer à, en tant que professionnel, expliquer aux plus jeunes qui veulent faire du jeu vidéo que les écoles, c'est pas magique, c'est pas juste on va à une école et voilà on a un travail en sortant, c'est aussi beaucoup de soi, il faut se renseigner et tout, donc notamment sur les écoles où il faut aller, etc, mais aussi sur le côté de les écoles c'est pas magique, le jeu vidéo c'est beaucoup de débrouillardise encore aujourd'hui, c'est beaucoup aussi de bouche à oreille, dans le sens, donc pas de pistonnage mais de bouche à oreille, dans le sens il faut aller rencontrer les professionnels, discuter avec eux pour que eux-mêmes expliquent comment ça marche sur place, les choses qu'il faut apprendre à faire et à pas faire, etc. Et voilà, du coup, ça, c'est beaucoup de choses qui se disent pas, en fait, beaucoup encore. Et moi, j'aimerais bien, d'une manière ou d'une autre, dans l'année, enfin, dans les années qui viennent et tout, essayer un peu de créer un dialogue sur ça. Et au sens large, comment faire des jeux aussi, voilà, en parler. Donc, je sais pas encore si ça va être via Twitch, par exemple, du stream ou des trucs comme ça, c'est les trucs qui m'intéressent et tout, mais il y a rien encore de prévu, quoi. Mais je sais qu'en tout cas, voilà, c'est pour le faire simple, je sais que j'ai envie de continuer à faire du jeu vidéo. Et j'ai envie de continuer ce truc-là où là j'ai eu la chance quand même de pouvoir faire d'un jeu dans un contexte qui était super, quoi. Et j'ai envie de continuer à faire ça, mais avec plus de monde et aussi de permettre à d'autres gens d'avoir cette chance de se retrouver dans ce genre de situation. Et donc, bah, pour ça aussi, c'est d'expliquer aux gens comment on se retrouve là, quoi. Parce que tout le côté de comment on me dit que j'ai eu de la chance, forcément, je passe aussi beaucoup de temps à expliquer aux gens que c'est pas tant de la chance qu'une manière de s'organiser professionnellement parlant, dans le sens où, si on m'a contacté moi et pas d'autres gens, c'est aussi parce que moi de base je me montrais, on va dire, sur les réseaux notamment, comme quelqu'un qui fait des jeux, qui est ouvert aux opportunités, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors évidemment que c'est pas aussi simple, mais il y aurait beaucoup plus de trucs à dire. Mais tout ce côté de, donc c'est pas forcément montrer comment je fonctionne, mais expliquer aux gens les réalités aussi de comment ça fonctionne en général, pour que les gens aient moins peur ou fantasment moins, en tout cas, qu'ils aient moins de superstitions sur des réalités du milieu du jeu vidéo, et des financements par exemple et des trucs comme ça, tout le côté je disais de quand on me disait à l'époque de Shippie, faut pas faire ça, c'est pas bien, ça marchera pas, ça se vendra pas et tout, il y a eu plein de, et entre temps en plus il y a dans les trucs habituels que j'entendais autour de moi, typiquement le truc de faire un petit jeu moche ou des trucs comme ça, c'est pas bien, enfin etc. Entre temps il y a eu Vampire Survivors qui est sorti, qui a fait chez les joueurs mais chez les devs encore plus un bruit pas possible et tout. Et typiquement, il y avait plein de gens qui ont joué les surpris, alors que ces mêmes personnes, c'est des gens avec qui j'avais pu avoir déjà des discussions autour de ce sujet. Et ce que je veux dire, c'est qu'on était Vampire Survivor, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, il y en a déjà eu dans l'histoire du jeu vidéo beaucoup, en fait, sous d'autres formes, mais n'empêche, de jeux qui, de gens qui n'ont pas fait comme tout le monde, mais qui ont fait un truc cool et donc ça marche entre guillemets. Et ça, voilà, c'est un truc aussi que j'ai envie d'essayer de véhiculer aux gens d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà, on verra, quoi. Rien de défini.
Mais ça reste quand même très intéressant et je suis sûre que ça intéressera beaucoup de gens, que ce soit des futurs développeurs ou même des curieux, autour de comment ça fonctionne, de comment on fait un jeu, etc.
Nous les premiers, en tout cas.
Déjà.
Bon, c'est cool alors.
Je n'ai qu'une envie, c'est retourner y jouer alors que je l'ai déjà fini, pour voir tous les petits détails que tu nous as donnés aujourd'hui sur Shippie. Donc, pour rappel, Shippie est disponible gratuitement sur Steam. Donc, n'hésitez pas à foncer, allez le télécharger et allez y jouer. Thomas, merci. Merci infiniment d'avoir été là avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
Nous, on va se quitter. Pour rappel, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts et les autres interviews qui sont disponibles sur le site de Point & Think. Vous avez aussi plein d'articles, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des likes, etc. Nous, on se retrouve une prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous écoutez ça. Merci beaucoup.